avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit Allahu Akbar. Après ça, ils ont dit que où est l'argent? Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre recommence. Nous voulons que ce soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel Plus. Aujourd'hui au sommaire, seconde semaine du procès d'Hissène Habré, l'ancien président du Tchad. Crise migratoire en Europe, la situation empire. Rubrique santé, Ebola fait-il son retour en Sierra Leone? Au Cameroun, la rentrée scolaire n'est pas sans poser de problèmes. Voici tous les sujets que nous allons développer dans Sahel Plus. Restez avec nous. Retour sur le procès d'Hissène Habré au Tchad. Le procès de l'ancien président tchadien est entré dans sa deuxième semaine devant les chambres africaines extraordinaires à Dakar. Plus de 300 journalistes sont accrédités et certains confrères ont rapporté que l'équipe tchadienne de télévision avait été rappelée à N'Djamena. Joint à Dakar par Idriss Fall, le porte-parole du tribunal spécial s'inscrit en faux. Marcel Mendy.
Je suis navré de constater que la presse locale se laisse instrumentaliser par des individus mal intentionnés qui, a priori, veulent saboter le procès à leur façon en divulguant de fausses informations parce que la presse tchadienne est bel et bien représentée à Dakar. Et jusqu'au moment où je vous parle, elle couvre toutes les activités liées à ce procès. Donc dire que la presse tchadienne a été rappelée à N'Djamena, c'est absolument une fausse information.
Au total, combien de journalistes sont accrédités à ce procès?
Ça avoisine les 300 journalistes accrédités. Alors quand je dis journalistes, j'y intègre la presse en ligne, les télévisions, les radios, la presse écrite, etc., etc.
Et pourquoi autant de journalistes?
C'est une affaire qui intéresse beaucoup de monde. C'est la première fois en Afrique qu'un ancien chef d'État est jugé par des Africains. Vous imaginez donc l'enjeu du procès, l'aspect pédagogique. Non seulement il faut lutter contre l'impunité, mais également il faut donner un signal fort aux présidents qui sont actuellement en exercice pour leur dire « faites attention ». Si vous commettez les mêmes erreurs contre vos populations, voilà ce qui risque de vous arriver à la fin de vos mandats.
Hissène Habré amené de force devant les caméras, est-ce que ce n'est pas violer son droit en tant qu'accusé?
Non, pas du tout. C'est la loi qui s'applique dans toute sa rigueur. Parce que M. Hissène Habré, quel que soit son statut d'ancien chef d'État, reste un justiciable, c'est-à-dire est assujetti au respect des lois et règlements. Maintenant, quand le président Kam lui demande de venir se présenter à la barre et qu'il refuse, en voyant pratiquement paître l'huissier qui avait été commis à cette tâche, vous comprenez aisément qu'il est là en train de défier la loi. Et le président de la Chambre a parfaitement le droit de recourir aux mesures que les textes lui permettent de prendre en pareille circonstance. Donc jusqu'ici, rien n'est illégal dans la comparution forcée de M. Hissène Habré dans la salle d'audience.
C'était Marcel Mendy, porte-parole des chambres africaines extraordinaires qui sont basées à Dakar. Retour sur les drames que vivent les migrants alors qu'ils traversent la Méditerranée. À bord du Phénix, du bateau bien entendu, Phénix, les équipes de l'ONG Médecins Sans Frontières sont appelées quotidiennement à assister les gardes-côtes et autres bateaux et petites embarcations qui portent secours aux bateaux de migrants. J'ai réussi à joindre un membre de l'équipe de MSF à bord du Phénix, Gabriel Casini.
Les gens qu'on trouve sur ce genre de bateaux sont des gens qui viennent de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique de l'Est et du Moyen-Orient aussi. Il y avait plusieurs personnes du Bangladesh, du Pakistan, de la Syrie, de l'Irak, du Soudan, de l'Érythrée, etc. etc. Ça veut dire qu'il y a vraiment une quantité énorme de nationalités. Maintenant, à bord du Phoenix, par exemple, on a 20 différentes nationalités.
Et qu'est-ce qui vous marque le plus durant ces sauvetages ?
Évidemment, ce qui nous marque, c'est la quantité des morts qu'on a trouvés. On est en train de voir une augmentation des cadavres à bord de ces bateaux. Et les problèmes, et la chose la plus frappante, on peut dire, c'est que ce sont des gens vraiment désespérés qui décident de risquer leur vie parce que c'est le seul choix qu'ils ont pour avoir une chance de survivre. Il y a beaucoup de gens qui quittent leur pays à cause de la guerre et commencent un voyage énorme à travers le désert, par exemple, où ils risquent vraiment de mourir. Et puis, après ça, ils arrivent en Libye, où ils sont kidnappés, où ils sont torturés, ils sont obligés à travailler pour rien. Et puis, ils partent sur un bateau où ils sont conscients d'avoir très peu de possibilités de survivre. Ça veut dire que, ouais, ils échappent des conditions de vie horribles. Il ne faut pas oublier ça. Et c'est la chose que, du point de vue humain, est plus frappante, on peut dire, ouais, plus forte. Il y a aussi beaucoup d'enfants et de femmes. Et les plus petits qu'on a à bord aujourd'hui, c'est un petit enfant de 2 mois. Et je n'arrive pas, par exemple, à imaginer ce que ça devrait dire pour un parent, pour un papa, pour une maman, de prendre ses enfants, même 2 mois, 10 mois, 2 ans, 3 ans, et partir pour un voyage pareil. Ça doit être un choix terrible.
Et que pensez-vous de l'attitude européenne ?
Non, seulement une autre chose qu'on trouve incroyable de façon négative, c'est que l'Europe, par exemple, maintenant, est en train de diriger des barrières énormes pour empêcher à ces gens d'arriver. Et aussi, il y a un manque étonnant de voies et de moyens légaux pour ces gens pour chercher asile, pour demander asile sans risquer leur vie. Maintenant, les gens qui viennent de l'Érythrée, par exemple, du Soudan, de la Syrie, sont obligés à partir dans des voyages terribles et puis s'embarquer dans des bateaux. Et ils doivent risquer leur vie pour avoir une possibilité de demander asile. Et c'est pas acceptable. La communauté internationale devrait s'engager pour offrir des moyens plus sûrs pour ces gens, pour cette population, pour trouver une vie meilleure et plus sûre.
C'était Gabriel Casini, chargé des affaires humanitaires sur le Phoenix, bateau de l'ONG de Médecins Sans Frontières qui vient chaque jour à la rescousse des migrants en pleine mer Méditerranée. Toujours concernant cette crise migratoire, la situation continue d'empirer. Selon l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, au 15 septembre, près de 465 000 personnes ont traversé la Méditerranée, rien que pour cette année, l'année 2015. L'OIM qui reste en alerte sur la situation des migrants en Europe, notamment en matière de prévention contre le trafic des êtres humains, les femmes et les enfants étant particulièrement vulnérables dans cette crise. Nathalie Barge a joint le porte-parole de l'OIM, Léonard Doyle.
L'OIM travaille partout dans le monde pour aider les victimes de la traite, pour aider les vulnérables surtout, pour leur donner un peu de soins et les protéger de ceux qui sont prêts à les exploiter. Et le problème en Europe, c'est qu'il y a les politiciens qui veulent que le grand parti soit appelé des migrants économiques. Alors parmi cette population, on a souvent des gens très vulnérables, surtout les victimes de la traite.
Mais est-ce qu'il y a déjà des cas de traite de personnes, de trafic de personnes par rapport à cette crise?
Oui, certainement. Ce qu'on constate, c'est toujours que quand il y a une crise, soit une crise naturelle, un tremblement de terre en Haïti par exemple, un événement comme le typhoon en Philippines il y a 2 ans, soit la guerre en Syrie, soit les problèmes en Nigeria avec Boko Haram, on a toujours les problèmes de la traite. Quand les gens sont déplacés, ils sont très vulnérables. Et c'est à ce moment-là qu'on voit les activités de ces gens.
La collaboration avec le HCR, comment se passe-t-elle?
Ça Ça, c'est une collaboration de frères, si vous voulez. Alors, souvent, on travaille avec eux pour faire le transport, pour vérifier la santé de ces gens. Et c'est l'HCR qui font le casework, le travail des individuels.
Pour terminer, essayez de nous en dire un petit peu plus sur le rôle de l'OIM sur la crise des réfugiés qui arrivent en Europe, dans ces pays-là. Comment vous gérez le problème?
On est là pour les accueillir en Lampedusa, par exemple, ou bien en Sicile et aussi en Grèce. En même temps, on travaille sur le côté de l'espace public pour être sûr que les politiciens respectent les droits des migrants. Et je pense qu'on a un certain succès à persuader les politiciens d'être courageux et de défendre les droits des migrants. Ce n'est pas seulement nous, c'est toute la communauté humanitaire, mais on voit maintenant que les politiciens ont un peu plus de courage. Et je pense que aussi c'est à cause de la pression publique que l'opinion publique est très forte sur ce point.
C'était Leonard Doyle, le porte-parole de l'Organisation internationale des migrations. Il répondait aux questions de Nathalie Barge depuis Genève.
Tatiana Mosso avec vous depuis la capitale américaine dans Washington Forum ce jeudi 17 septembre. Un focus sur les violations des droits de l'homme qui seraient commises par l'armée camerounaise dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Amnesty International dénonce les abus des soldats camerounais. Comment combattre un ennemi quasi invisible et qui s'infiltre au sein des populations de réfugiés? Partagez vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h TU avec nos invités.
À présent, une mauvaise nouvelle en provenance de la Sierra Leone. 700 personnes ont été placées en quarantaine afin d'empêcher une recrudescence de l'épidémie Ebola. Un confinement massif qui intervient après la mort d'une adolescente de 16 ans. Jean-Roger Bion.
La jeune fille est décédée dimanche dans une banlieue rurale de la ville de Makeni, dans la province de Bombali, au nord de la Sierra Leone. Cette région n'avait pourtant plus signalé de cas de la fièvre hémorragique depuis près de 6 mois. La quarantaine va durer pendant 21 jours selon les autorités sanitaires. Parmi les personnes en confinement, on compte les parents de la jeune fille décédée, ses proches et ses camarades de classe. Ils sont classés comme présentant un haut risque, bien qu'ils n'aient montré aucun signe ou symptôme de la maladie, a précisé le porte-parole du ministère de la Santé, Séré Touré. Ce nouveau cas n'a pas de lien avec un foyer de contamination situé dans la province voisine de Cambia, où est morte fin août une femme de 67 ans dans le village de Sela Kafta, qui a depuis été placée en quarantaine. Juste avant ces nouveaux cas, la Sierra Leone espérait être en voie d'éradication du virus après la sortie d'hôpital le 24 août à Makeni de la dernière malade d'Ebola connue après plus de 2 semaines sans nouvelle contamination signalée.
Merci beaucoup Jean-Roger. Rubrique éducation pour finir l'émission avec le début de l'année scolaire dans beaucoup de pays africains, mais aussi au Cameroun. Comme chaque année, parents et élèves sont confrontés à la problématique des manuels scolaires, une situation rencontrée dans beaucoup d'autres pays sur le continent. Reportage à Douala de notre correspondante Sandrine Yamga.
La rentrée scolaire au Cameroun ne rime pas toujours avec disponibilité du manuel scolaire. Dans les librairies, plusieurs parents crient à la cherté, mais surtout à la rareté des livres inscrits au programme scolaire de leur progéniture. Une situation qui affecte la librairie de seconde main et qui est due au changement observé chaque année sur les listes du manuel, déplorent des parents.
Je suis venu avec les livres pour changer. On me dit qu'on a tout changé. Finalement, je suis vraiment dessus.
Nous pouvons pas acheter les livres chaque année. La maison est pleine de livres. Les armoires sont pleines de livres. Les livres ne sont pas quand même venus les cahiers. Il faut quand même qu'on voie la situation, qu'on essaie de mettre un livre au programme. Il peut faire au moins 5 ans, 7 ans.
Conséquence aussi, les bénéfices sont en baisse chez ces commerçants.
Nous avons un store de livres qu'on ne peut plus vendre. Parce que le gouvernement a changé tous les livres sur le marché. Au-delà de ça, vous voyez, un enfant ne peut plus passer et que son petit frère reprenne le même livre pour fréquenter avec. Marché, vous voyez, il y a trop de pauvreté. On ne sent même pas qu'il y a une rentrée scolaire.
Et nous demandons vraiment de revoir ce problème-là. Parce que quand on change les livres chaque année, nous les libraires, qu'est-ce que nous en faisons de ce qui reste?
On ne supplie que cette année, on met major. L'année prochaine, on dit on met excellence. Finalement, on ne connaît plus le livre que nous allons utiliser.
Depuis quelques années, les autorités en charge de l'éducation, notamment au ministère des Enseignements secondaires et de l'Éducation de base, appellent les éditeurs à leur proposer des livres inscrits au programme scolaire. Le processus est enclenché quelques mois avant chaque année scolaire et ouvre la voie à la corruption. Explication de Ferdinand Anapayon, initiateur de la Bourse du Livre et spécialiste en marketing.
Lorsqu'on dit livre de français, on propose au programme 3, parfois 4 livres, ce qui n'est pas réglementaire. 4 livres de français, et c'est maintenant au chef d'établissement ou bien au chef du département de la langue française dans l'établissement de choisir le livre qu'il veut. Ça ouvre à la porte à des négociations. Vous allez voir des éditeurs qui font la queue pour proposer leurs ouvrages avec des arguments. Résultat des courses, on choisira ce livre. L'année prochaine, si ce n'est pas vous qui êtes chef de département, ben vous choisissez l'autre. Ah, dans les familles, lorsqu'il y avait cette possibilité d'échanger des livres en famille, les familles économisaient des milliards de francs chaque année. La solution, c'est qu'on revienne sur cet arrêté et que, par exemple, au lieu de dire que tous les ans, on évalue et on voit, on propose des titres, qu'on dise que voilà, on va proposer des titres pendant 3 ans. Ça permet d'un coup que ça résolve ce problème qui est social, économique et puis même sur le plan éducatif.
Les changements permanents observés sur les listes et la possibilité pour chaque chef d'établissement de choisir son manuel scolaire chaque année peuvent être des éléments qui laissent croire que les élèves n'abordent pas les examens avec les mêmes chances, clament des syndicalistes.
La problématique du manuel scolaire au Cameroun, un reportage de notre correspondante à Douala, Sandrine Yamga. When you can see the same reflections of city lights, but you're far away at sea of all the satellites and the runaway. What am I gonna do with you if you go back? Sahel Plus. C'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Josèle Morissin. À la console, Mirael Dubinsky et Alfredo Santos. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Rendez-vous mercredi prochain, 18h10, temps universel sur VOA Afrique. D'ici là, retrouvez-nous sur Twitter et Facebook. Profil VOA Sahel+, bien sûr. Nous nous quittons en musique avec Tony Allen featuring Damon Albarn avec leur Go Back. C'est tiré du 10e album Film Offline de Tony Allen. Tony Allen, l'ancien batteur de Fela, qui joue ce soir à Londres pour l'une des nombreuses Felabrations organisées pour marquer l'anniversaire de Fela Anikou Lapo Kouti. Très bonne soirée et très bonne nuit à tous. Does anyone see you left out all the wrongs? Does anyone see you gotta go back when the only way home is a seven? You've made yourself